Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Affrontement depuis ce matin à Ngongo dans l'Ituri. Des combats opposent les FARDC aux miliciens de FPIC et de la CODECO. Bilan, 6 civils tués par des balles perdues. Bilan non confirmé par l'armée. Entre-temps, une panique est observée au sein de la population. Rentrée scolaire encore timide dans la majorité des écoles publiques en Mbandaka. Le directeur provincial de l'EPST Équateur invite les élèves ainsi que les enseignants hésitants à reprendre tous le chemin de l'école. Nous faisons le point dans ce journal avec Paul-Richard Malengela. Et puis, l'invité, Julienne Lusenge, coordonnatrice de l'ONG Solidarité des Femmes pour la Paix et le Développement Intégral. Elle nous parle des résultats de l'enquête sur les allégations d'exploitation et abus sexuels durant la 10e épidémie d'Ebola, août 2018 à juin 2020, au Nord Kivu et en Ituri. Madame, messieurs, bonjour. Avant de développer ces titres, allons d'abord au Nord Kivu. L'armée annonce avoir neutralisé 4 rebelles ADF et récupéré des armes et des bombes artisanales dans le territoire de Beni. Cela au cours des affrontements qui ont opposé hier des militaires à ces combattants à Kalaou et Kalingati, deux villages du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord s'est réjoui de l'attitude des habitants qui ont permis aux forces armées de prendre le dessus sur ces rebelles. Le point de la situation avec André Kitenge.
Tout serait parti d'une alerte des habitants des villages Kalao et Kalingati qui ont signalé aux militaires présents dans la zone la présence des rebelles ADF visiblement à la recherche des vivres. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 qui livre l'information, des militaires ont ensuite été vite dépêchés sur les lieux. Aussitôt arrivés, relate le capitaine Anthony Mwalushai, ils ont échangé des tirs avec le groupe de rebelles composé d'une dizaine d'hommes armés. À en croire la même source, après l'échange des tirs, les FARDC ont pris le dessus sur les ADF en neutralisant 4 d'entre eux. Les militaires auraient également récupéré des armes de guerre ainsi que quelques bombes artisanales que détenaient les rebelles. Des sources de la société civile locale parlent également d'un civil tué et d'une moto incendiée lors de ces affrontements. Du côté de l'armée, on se félicite du comportement des habitants des villages Kalao et Kalingati qui ont informé les militaires de la menace qui pesait sur eux. Le capitaine Anthony Mwalushai encourage la population à collaborer davantage avec les FARDC pour mettre fin à l'activisme des groupes armés dans la région. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au sud Kivu, un élément de la police nationale congolaise a été enlevé et amené vers une destination inconnue. Incident survenu ce mercredi matin dans le territoire de Calais, sur le tronçon entre Ombo et Bunyakiri. L'administrateur de Calais confirme cette information. Dédé Mwamba rassure que les démarches sont en cours pour obtenir la libération du policier et son arme de service. Les rebelles Raia Mutomboki qui l'ont enlevé, dit-il, conditionnent sa libération à celle de leurs combattants qui sont gardés en ce moment au cachot de Kavumu depuis quelques jours. Pendant ce temps, la représentante spéciale de l'ONU pour la RDC a demandé au Conseil de sécurité hier de continuer son appui à la population et au gouvernement congolais en renouvelant le mandat de la MONUSCO, la mission de paix onusienne dans le pays. Bintou Keïta l'a dit dans son adresse au Conseil de sécurité sur la situation en RDC. Selon la chef de la MONUSCO, le plan de transition conjoint qui a été élaboré par le gouvernement et l'ONU est une véritable opportunité et feuille de route pour la sortie ordonnée et responsable de la mission. Bintou Keïta a fait état des progrès en ce sens, tout en soulignant le défi majeur que reste la situation sécuritaire à laquelle est confrontée la RDC, à l'instar de la situation face aux groupes armés dans l'est du pays. On écoute la chef de la MONUSCO dans cet extrait proposé par Alain Rungmushinj.
La situation sécuritaire et les contraintes d'accès à l'est du pays continuent d'entraver les opérations humanitaires dans un contexte où une personne sur trois a besoin d'assistance. L'insécurité alimentaire et les épidémies cycliques sont des préoccupations majeures. Les attaques contre des écoles et des hôpitaux ont exacerbé les défis humanitaires dans plusieurs régions de l'est, en particulier l'Ituri. Avec plus de 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, la RDC a le nombre le plus élevé de personnes déplacées sur le continent continent africain. Plus de 26 millions de Congolais souffrent d'insécurité alimentaire, soit 29% de la population. J'exhorte les États membres à augmenter leur contribution au plan de réponse humanitaire 2021, qui prévoit 1,98 milliard de dollars pour répondre aux besoins prioritaires. À ce jour, malheureusement, le plan est seulement financé à un peu plus du quart. Je tiens à souligner l'engagement ferme de la MONUSCO et de l'équipe pays des Nations Unies à suivre une politique de zéro tolérance pour l'exploitation et les abus sexuels et assurer une assistance globale aux victimes.
Je vous le disais en titre, en Ituri, des combats à l'arme lourde ont éclaté tôt ce matin à Ngongo, village situé à 18 km au sud de Bunia. Ils opposent les FARDC à un groupe des miliciens de la coalition Force Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC et de la CODECO. Selon des sources sécuritaires, des assaillants ont attaqué une position de l'armée pour tenter de reconquérir cette entité. La société civile locale avance un bilan de 6 civils tués par des balles perdues. L'armée n'a pas encore confirmé ce bilan. La population locale vit actuellement dans la psychose, c'est ce que nous dit Martial Kizabiamungu.
C'est vers 4h locales que des détonations d'armes légères et lourdes à provenance de Ngongo et Mwanga ont été entendues au quartier Kanyasi et Kolomani, ici à Bunia. Plusieurs sources concordantes affirment que les militaires FARDC ont été surpris par les assaillants de la coalition des FPIC et de la CODECO en Ngongo, à seulement une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Bunia. Toujours selon la même source, les forces loyalistes ont réussi à déjouer cette attaque. Jusqu'à 9h locales, des combats se poursuivaient encore dans la zone, affirmait plusieurs sources. La société civile du secteur de Wayendoujati Sud indique que dans cette confusion, 6 civils ont été touchés par balles perdues et sont morts, dont 3 taximens, des enfants et une vieille femme. Ici à Bunia, des militaires FARDC avec des chars de combat sont visibles depuis le matin au centre-ville en état d'alerte. Pour le moment, les FARDC ne se sont pas encore prononcés sur ces combats. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci de nous écouter à Mbandaka, chef de la province de l'Équateur. Ici, nous apprenons que depuis la rentrée scolaire officielle le 4 octobre, les activités sont encore timides dans la majorité des écoles publiques. Les chefs d'établissement, les administratifs et quelques enseignants sont présents, mais les élèves brillent par leur absence. Le directeur provincial de l'EPST Équateur invite les élèves ainsi que les enseignants hésitants à reprendre tous le chemin de l'école. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à Goma. Le gouverneur du Nord Kivu a reçu ce mercredi sa première dose de vaccin anti-Covid. C'était à l'hôpital provincial de référence. Le général Constant Ndima rappelle que le Nord Kivu est la deuxième province affectée par le coronavirus après la ville-province de Kinshasa. Il demande ainsi à sa population de lui emboîter le pas. Le général Constant Ndima, dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga Chamboui. Toutes nos excuses, cet élément sonore n'est pas prêt, nous allons y revenir. Notez qu'après avoir reçu sa dose de vaccin, le gouverneur ainsi que le commissaire divisionnaire de la PNC Nord Kivu ont eu leur carte de vaccination contre le coronavirus. Province du Haut-Katanga, l'association des démocrates fascistes ADEFAT en sigle organise depuis lundi une campagne de circoncision gratuite. Les bénéficiaires sont les habitants du quartier Kamatete dans la commune annexe à Lubumbashi. Les organisateurs s'attendent à recevoir 600 enfants au bout d'un mois. Des détails avec vous, Jean Gandou.
C'est à l'issue d'une enquête menée par les membres de l'association qu'il a été constaté que la plupart des jeunes garçons de ce quartier périphérique de la ville de Lubumbashi sont encore incirconcis. Plusieurs parents indiquent que c'est par manque d'argent que leurs enfants sont dans cet état. Et c'est pour remédier à cette difficulté que les organisateurs tiennent cette campagne dont les frais sont entièrement pris en charge par l'association. Initialement prévue pour 10 circoncisions par jour, l'engouement observé oblige les organisateurs à passer de 10 à 20 cas par jour. Au bout d'un mois, ce sont 600 enfants qui seront circoncis. Déjà, plusieurs parents ont salué cette initiative qui est venue résoudre un problème qui les tourmentait. Les habitants du quartier Kamatete intéressés par cette campagne sont appelés à se faire enregistrer à la clinique Betsaïda Zoé où sont circoncis les enfants avant d'être programmés. À noter que même les hommes avancés en âge qui sont encore incirconcis sont aussi attendus, a indiqué Thérèse Toumba, présidente urbaine de l'association pour la ville de Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Rendons-nous au Congo central. Les pêcheurs de Mwanda sont bénéficiaires d'un certain nombre d'infrastructures pour la promotion de leurs activités ainsi que le développement socio-économique de leurs entités. Malheureusement, l'existence de ces ouvrages n'a encore produit aucun résultat palpable. Au contraire, ces pêcheurs disent être confrontés à d'énormes difficultés. Honoré Misengaka Lalaï, notre envoyé spécial dans la cité côtière de Mwanda. Voici son reportage.
Les infrastructures de pêche construites à Mwanda l'ont été grâce au cofinancement du Fonds mondial de l'environnement et du programme des Nations unies pour le développement PNUD. Mwanda Village, l'un des grands villages de ces territoires, abrite un de ses ouvrages, un complexe de séchage et de transformation des produits de pêche. Il est composé notamment de 6 plaques solaires pour le séchage de poissons salés et de 2 fours thermiques pour la production des poissons fumés. À côté de ce complexe, le PNUD a construit pour le même village une unité de production d'aliments de bétail. Un peu plus loin, au village Nsianfumu, les pêcheurs du coin sont bénéficiaires d'un petit marché moderne où ils peuvent vendre dans des conditions sanitaires normales les produits de la pêche. Mais aucun de ces ouvrages, bien que terminé depuis 2 ou 3 ans, ne fonctionne jusqu'aujourd'hui, chose que certains acteurs sociaux de la place imputent à l'absence d'appropriation du projet par les communautés locales bénéficiaires et surtout à un manque de volonté dans le chef des autorités provinciales et nationales. Par ailleurs, les pêcheurs de Mwanda, bien qu'organisés en plusieurs associations professionnelles, déplorent être encore contraints à des pratiques de pêche antiques. De Mwanda au Congo central, Honoré Misengaka Lalaï, Radio Okapi.
Je vous le disais tantôt, à Goma, le gouverneur du Nord Kivu a reçu aujourd'hui sa première dose de vaccin anti-Covid à l'hôpital provincial de référence. Le général Constant Ndima rappelle que le Nord Kivu est la deuxième province affectée par le coronavirus après la ville-province de Kinshasa. Il demande à la population de lui emboîter le pas. On l'écoute dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga.
La COVID-19 est apparue au monde et notre pays n'en est pas épargné. Notre province aujourd'hui, surtout la ville de Goma, est la deuxième ville la plus contaminée après Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons 2 types de vaccins ici au Nord Kivu, AstraZeneca et le Pfizer qui vient d'arriver. Nous avons donné le go. Je veux voir toute la population se faire vacciner. C'est bon parce que ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Mais nous appelons la population à se faire vacciner. C'est à cette occasion que je lance un appel vif à toute la population du Nord Kivu de se faire vacciner. Se faire vacciner, c'est se protéger. C'est s'aimer et protéger aussi sa famille. Et comme vous le savez, la province du Nord Kivu compte plus ou moins 11 à 12 millions d'habitants. Et depuis tout ce temps, nous sommes témoins, nous tous, ravagés par cette maladie. Le gouvernement de la République, pour la protection de sa population, a tout fait pour mettre à la disposition de la population le vaccin. Parce que se faire vacciner, c'est s'aimer et aimer aussi sa famille. Quand on aime sa famille, on a protéger sa communauté, sa province et pourquoi pas toute la République.
Retour au Sud Kivu. Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, s'indigne des multiples attaques dont les paroisses catholiques sont devenues la cible des bandits dans la province. À cet effet, l'archidiocèse de Bukavu exige des enquêtes pour que les responsables de ces actes répréhensibles ne restent pas impunis. Cela après que le prélat de l'église catholique du Sud Kivu était à Walungu lundi. C'était une visite de réconfort auprès d'une communauté des sœurs dont le couvent a été attaqué par des hommes en armes le dimanche 3 octobre. Une personne a été grièvement blessée et de l'argent emporté. Écoutez l'abbé Justin Kouzi, directeur de la commission diocésaine justice et paix, au micro de Cynthia Bachizi.
C'est la 7e communauté attaquée depuis 3 mois. Tjirano, c'était le 12 mai, Bouriba le 13 mai, Tchaï le 17 mai, la maison du salut à Nyamuko le 18 août, Kadout le 21 septembre et les sœurs de Kanyamulande à Walungu le 30 septembre. On veut casser, on veut piller, on veut voler. Dans toutes ces attaques-là, principalement, ils demandent de l'argent. Alors, je crois que s'il y a un acharnement favorisé par une certaine impunité, avec une prolifération facile des armes et de ces jeunes gens, armés ou pas, qui opèrent impunément. Et ce qui nous étonne, il n'y a jamais eu une seule enquête. L'archevêque était à Mugogo hier soir. Il n'y a aucune autorité qui est cela, c'était presque 24 heures plus tard. Alors, ce silence, cette passivité donne le sentiment que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mais nous allons continuer toujours. L'archevêque a dit aux prêtres de Mugogo de ne pas fuir leur paroisse. Si c'est ça la stratégie qui est engagée contre nous tous, et on ne comprend même pas comment on peut aller attaquer les sœurs à Kanyamulande et à Walungu. Des sœurs qui travaillent à l'hôpital. Et ici, j'en appelle à nos chrétiens qu'ils dénoncent au besoin qu'ils se désolidarisent de tout ce qui peut nous nuire.
Actualité internationale.
4 ans après le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, Montpellier accueille vendredi un sommet sur la refondation des relations entre la France et l'Afrique. L'organisation a été confiée au philosophe camerounais Achille Mbembe. Avant ce sommet, l'intellectuel a publié un rapport dans lequel il invite la France à se reconnecter avec les nouvelles générations africaines et leur lutte pour la démocratie. Ce sommet intervient alors que la France voit son influence contestée, notamment par la Russie, et Paris est à couteau tiré avec le Mali depuis plusieurs mois. En Afrique du Nord, la relation avec l'Algérie est de nouveau secouée après des propos du président Macron jugés insultants et des réductions annoncées des visas.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Madame Julienne Lusenge, coordonnatrice de l'ONG Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral. Elle a co-présidé la commission indépendante d'enquête sur les allégations d'exploitation et abus sexuels durant la 10e épidémie d'Ebola août 2018 à juin 2020 au Nord Kivu et en Ituri. Cette commission instituée par l'OMS a restitué les résultats de cette enquête hier à Goma. Que retenir de cette rapport, de ce rapport plutôt? Des détails dans cet entretien de Madame Julienne Lusenge avec Bernardin Nyangi.
Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez co-présidé la commission là. D'abord, comment vous êtes parvenu à être impliqué dans cette enquête là?
J'ai été nommé par le DG et l'OMS à cause de ces allégations qui ont apparu dans la presse. Et comme c'est ma lutte de chaque jour, j'ai accepté et je me suis engagée de co-présider la commission.
Et quels sont les résultats?
Oui, la commission a travaillé, a été constituée de 2 coprésidentes et 3 membres. Et nous avons travaillé bénévolement pendant 12 mois. Donc, nous avons recruté une organisation qui a l'expérience dans les investigations. Et l'organisation a fait 5 visites sur le terrain. Une à Goma, 3 à Beni, une à Bunia et une à Butembo. Ils ont même fait des appels à distance pour chercher les informations. L'OMS a transmis à notre équipe d'examen plus ou moins 600 000 documents. Et l'équipe d'examen a regardé et a tiré les informations là-dessus. Donc tout ça a aidé l'équipe d'examen à nous donner les éléments de rapport. Et aussi, l'équipe d'examen a aussi écouté les présumés auteurs. Sur 83, on a écouté quelques-uns. En tout, nous avons eu comme conclusion, il y a eu vraiment l'exploitation et abus sexuelle pendant la 10e pandémie d'Ebola dans le Nord Kivu, donc à Beni et à Ituri. En plus de ça, il y a eu aussi des faiblesses, des négligences dans la mise en œuvre des procédures et des politiques de l'OMS pour combattre l'exploitation et les abus sexuels. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y avait pas seulement les agents de l'OMS. Il y a aussi les autres agences des Nations Unies qui ont travaillé dans la riposte. Il y a aussi le ministère de la Santé qui a déployé du personnel qui sont venus de partout, qui sont venus aussi travailler, qui sont impliqués aussi. Nous avons formulé des recommandations, 21 recommandations. Il faudrait que l'OMS puisse réformer sa structure, de mettre une bonne coordination sur le terrain et le bureau régional et aussi le siège pour que chaque fois les informations puissent passer directement. Nous avons aussi recommandé à l'OMS d'approfondir les enquêtes et de poursuivre les auteurs, qu'ils soient congolais, qu'ils soient étrangers et qu'il y ait des réparations pour les victimes. Il y a des enfants qui sont nés de ces actes. Nous espérons que l'OMS va vraiment prendre en charge. C'est très important parce que les victimes ont dit à notre équipe d'examen qu'elles n'ont jamais eu d'assistance, bien qu'elles ont traversé cette expérience dégradante.
Et le gros, c'est à Beni, c'est à Butembo, c'est aussi à Ituri.
Le gros, c'est à Beni. C'est à Beni. Et bien sûr, nous ne disons pas que nous avons atteint toutes les victimes parce que nous n'avions pas assez de temps pour faire ces enquêtes et arriver à contacter toutes les victimes. Nous avons lancé un appel, un numéro était là pour que les gens qui ont des informations puissent apporter les informations. Il y a même des hommes qui ont témoigné que le programme de la riposte à la 10e épidémie d'Ebola a aussi impacté négativement sur leur foyer. Il y a des foyers, des ménages qui ont été déstabilisés à cause de l'exploitation et abus sexuels. Des femmes qui nous ont témoigné que ils ont été harcelés. On leur demandait d'offrir leur corps pour avoir du travail. Et d'autres qui n'ont pas eu de travail, bien qu'elles ont accepté les rapports sexuels, n'ont pas eu de travail. Il y a d'autres qui étaient déjà au travail, mais qui étaient harcelés et qu'on menaçait de perdre le travail si elles n'arrivaient pas à céder et avoir des rapports sexuels. Donc il y a eu beaucoup d'abus et nous pensons que ce rapport va aider à ce que la communauté internationale puisse punir ces gens qui commettent ces actes. Parce que ce n'est pas juste. Il faut qu'on arrive à punir et à éradiquer ce comportement dans la communauté internationale. L'OMS s'est jetée à l'eau. L'OMS a accepté d'avoir une commission indépendante. C'est la première. Les autres agences des Nations Unies, ce n'est pas que ça se passe seulement à l'OMS. C'est toutes les agences aussi qui ont des problèmes, les organisations humanitaires aussi. Donc, ils doivent prendre leur courage et faire des enquêtes indépendantes pour relever tous ces défauts et essayer de combattre ces problèmes pour redorer l'image de la communauté humanitaire. C'est vraiment très important.
Alors, maintenant là, vous avez déjà fait votre travail et la commission, vous vous limitez là ou bien il y aura une suite après ça?
Bon, en tant qu'activiste et les membres de la commission, on est très engagés. On a remis les recommandations à l'OMS et on va suivre. On leur a dit qu'il faut un comité indépendant qui va mettre en œuvre ces recommandations. Et nous allons chaque fois poser des questions à l'OMS pour savoir à quel niveau les recommandations ont été mises en œuvre.
Madame Julianne Lusenge, merci.
Merci beaucoup.
La coordonnatrice de l'ONG Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral s'entretenait avec Bernardin Nyangui. C'est la fin de ce journal, supervisé par Martin Sebujangwe, à la mise en onde Jean-Noël Mokondo et devant ce micro, Belinda Bosuma. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net.